Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport en direct du Mans.
Jean-Christophe Drouet.
10h07 de retour sur RMC en direct du Mans pour le Grand Prix MotoGP, le Grand Prix de France avec Fabio Quartararo, notre Français qui nous fait plaisir, qui partira en pole position à 14h. On en parle dans quelques instants, c'est votre émission jusqu'à midi avec les grandes gueules ce matin. Sarah Pitkowski, Jérôme Pinot, Pascal Duprat, Christophe Cessieux, donc Fabio Quartararo qui partira en pole position. Le Français peut-il le faire? On se posera la question dans quelques instants. On reparlera de foot à partir de 11h, la dernière chance du Real Madrid cet après-midi à 16h15 lors du classique. Dernière chance pour gagner la Liga, dernière chance pour gagner un titre cette saison. Kylian Mbappé joue-t-il sa saison cet après-midi? On se posera la question, mais GG à l'heure où le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Et puis nous parlerons également de top 14 avec la large victoire du Stade Toulousain qui se reprend bien après sa défaite la semaine dernière face à l'UBB en demi-finale de Champions Cup. Victoire éclatante face à Toulon. Et puis on dira un mot aussi du Stade français qui va mal, au plus mal même, une nouvelle fois battu à l'extérieur, zéro victoire à l'extérieur cette saison, c'était édifiant, c'était face à l'USAP. Mais on engage tout de suite cette partie moto avec notre invité qui est un habitué maintenant des grandes gueules du sport, c'est Sébastien Poirier, président de la Fédération Française de Motocyclisme. Bonjour Sébastien.
Bonjour à vous tous.
Une grande gueule parmi les autres, hein, franchement.
On se voit beaucoup moins que vous.
Si, quand même. Si, on va en avoir besoin pour le débat. Tout va bien Sébastien?
Tout va bien, écoutez, on a la chance de vivre un très beau week-end en tout cas, et ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment une fierté pour moi en tant que président de voir cet enthousiasme, cette énergie positive et voir ces spectateurs aussi nombreux dès jeudi.
Alors c'est vrai que depuis deux ans, nos Français performaient moins, notamment Fabio Quartararo. On se posait souvent la question, est-ce que la moto a besoin de Français? Parce que là ça va mal, est-ce qu'on a besoin de ça? Vous avez souvent fait ce débat avec nous. Là on va se demander s'il peut le faire cet après-midi, s'il peut gagner Le Mans, ce Grand Prix évidemment absolument magnifique. Il est chez lui, ici au Mans, Fabio Quartararo.
RMC, le bras de fer GG.
Titre mondial pour le pilote italien. On voit la mine complètement désabusée de Pecco Bagnaia qui menait ce Grand Prix à 6 tours de l'arrivée, qui a donc perdu l'avant et qui a donc chuté, et bien en portant ses derniers espoirs et bien de lutter pour le titre jusqu'à la fin de la saison. C'est un immense jour pour la moto française. Fabio Quartararo compte quasiment 4 secondes d'avance sur Alex Rins. Il a de suite accéléré le tempo, déposant ses adversaires un à un. Il est capable d'assurer des podiums et lorsqu'il faut gagner, il gagne. La Marseillaise, c'est terminé, la victoire de Fabio Quartararo, la 5e de la saison, la 8e de sa carrière. Quelle démonstration de force encore une fois du pilote niçois.
Et évidemment, nous voulons une Marseillaise tout à l'heure sur les coups de 14h45 après ce Grand Prix du Mans. C'est un retour en forme en tout cas qui fait du bien. Hier, Fabio Quartararo a signé une magnifique pole position, la 3e de sa carrière ici au Mans, en pulvérisant le record du circuit Bugatti. C'est la 2e de suite pour le Français, un retour en grâce pour le champion du monde 2021 qui vient de connaître, vous le savez, deux saisons difficiles. 2e, il y a 2 semaines en Espagne, Fabio Quartararo va tenter de s'imposer en MotoGP pour la première fois pour lui depuis 2022, et un Français qui gagne dans la catégorie reine ici au Mans, ce serait une première depuis 71 ans. C'est dire évidemment la portée d'histoire.
Christophe,
c'est
sûr, commenter cette course.
Oui, oui, il y a 71 ans, Christophe évidemment faisait les grandes gueules du sport. Hein, c'est incroyable déjà.
J'en étais déjà à ma 10e saison de MotoGP.
Mais pour ça, vous le savez, il va falloir résister notamment aux frères Marquez. Pas une mince affaire. Fabio Quartararo peut-il le faire? C'est notre bras de fer dans le coin gauche. La team oui, représenter les ravis de la crèche par Jérôme Pinot, Sarah Pitkowski et Pascal Duprat. Dans le coin droit, la team, ah, c'est plutôt non, parce que évidemment il s'y connaît en MotoGP. C'est Christophe, je me moquais pas de toi mon cher Christophe, c'est plutôt non pour toi. Avant de débattre, on va retrouver Paul Lafitte, notre commentateur. Salut Paul.
Salut JC.
Ah, c'est vrai que Fabio Quartararo a réalisé un samedi magnifique.
Oui, j'essaie, car l'ancien champion du monde tricolore, habitué depuis maintenant 2 saisons à batailler en milieu de grille pour rentrer dans les points, a retrouvé des couleurs au guidon de sa Yamaha. Alors cela avait commencé il y a 15 jours, tu le précisais, à Jerez en Espagne, avec une pole position assortie d'une 2e place en course le dimanche derrière Alex Marquez. Et cela s'est donc confirmé hier lors de la séance de qualification avec une nouvelle pole position, la 18e de sa carrière, peut-être le meilleur tour de sa carrière en qualif, en battant au passage le record de la piste, une pole position qu'il n'a pas pu transformer là en victoire lors de la course sprint. Le Niçois terminant au pied du podium derrière les intouchables Ducati des frères Marquez et de Fermín Aldeguer. Mais Fabio, à sa descente de moto, ne voulait retenir que le positif. Je vous propose de l'écouter au micro du diffuseur Canal+.
On le savait, hein, c'était sur un tour, on a trouvé quelque chose, on arrive vraiment à se mettre à la limite, mais sur le rythme, on sait que tour par tour, on perd du grip, il nous manque de l'accélération, il nous manque un peu de puissance, il nous manque plein de petites choses pour arriver à leur niveau, mais j'ai fait une course intelligente quand j'ai vu Aldeguer qui m'a vraiment rattrapé une vitesse de ouf, je savais très bien que je pouvais pas battre pour le podium, mais faire le maximum, je me suis amusé, donc voilà, j'ai donné le maximum et je pense que P4 aujourd'hui, c'était le meilleur résultat qu'on pouvait faire.
El Diablo, hein, malgré cette pole position, mesure encore le chemin à parcourir pour aller titiller les Ducati plus rapide et plus en rythme sur la totalité d'un Grand Prix. Mais l'ensemble de l'équipe progresse et va donc dans le bon sens. Fabio Quartararo.
Être un petit peu déçu sur une quatrième place en sprint, je pense que c'est positif parce que début d'année, on était même pas dans les points. Ça fait du bien et on en veut toujours plus, mais des fois, il faut rester calme, essayer de donner le maximum.
Le tricolore qui va donc tenter, malgré ce déficit de puissance de contrecarrer, vous l'avez compris, les plans du team Ducati officiel et du team Gresini pour aller décrocher la lune et pourquoi pas une 12e victoire en MotoGP. Aucun pilote français JC n'ayant triomphé en catégorie reine sur ce tracé Bugatti.
Merci beaucoup Paul Lafitte pour ces précisions. Fabio Quartararo peut-il le faire? C'est notre débat dans les grandes gueules du sport ici en direct du Mans. Vous l'avez compris, il y a du oui, il y a du non dans le studio RMC ici. Nous sommes juste devant la ligne d'arrivée. On espère évidemment que Fabio Quartararo va le faire. Sébastien Poirier, je me tourne vers vous, président de la Fédération Française de Motocyclisme. Les raisons d'y croire, est-ce qu'il y en a objectivement? Parce qu'on sait que plus cette course va durer, plus ça va devenir dur pour notre Français.
La raison d'y croire, c'est l'incertitude du sport. Hein, je pense qu'il faut le retenir, mais même si aujourd'hui on est sur un sport mécanique, et donc c'est vrai que les Ducati, elles sont encore là, on l'a vu hier, elles sont très très performantes. La bonne nouvelle, c'est que Fabio progresse, la machine progresse, c'est qu'aujourd'hui elle est rapide. Maintenant, il faut qu'elle soit rapide sur l'ensemble, l'intégrité d'un Grand Prix. Le Grand Prix de France, c'est peut-être un petit poil trop tôt dans la saison, parce que je pense que Yamaha va encore progresser tout au long de la saison comme Honda. Donc on va avoir un très très beau championnat. Je pense que dans l'attitude et dans le temps, il faut que Fabio prenne des points, gagne en régularité. Il est très rapide. Un podium serait déjà fantastique, hein, je crois, ici en France, et ça permettrait de le récompenser, parce que le pauvre, il n'a pas eu la chance de rouler devant son public en 2021, alors qu'il était l'année de son titre. Et donc, je crois que pour lui, ça serait vraiment fantastique que déjà figurer sur le podium.
Exactement, on voit tout ça sous le prisme pour un champion du monde, mais c'était en 2021, on voit ça sous le prisme de la victoire. Mais c'est vrai, Christophe, on l'a dit, ça va être extrêmement compliqué cet après-midi. Il ne faut pas se faire d'illusions non plus.
Non, mais c'est déjà énorme. C'est déjà, on parlait de miracle tout à l'heure, De Zerbi parlait de miracle, mais c'est presque un miracle que Quartararo arrive à faire une pole avec toute l'armada Ducati qui est face à lui. Ducati, il y a les motos d'usine, il y a les motos partenaires, enfin ils sont partout et ils ont le meilleur pilote de la planète, sans doute le GOAT de la moto, même s'il est en lutte avec Rossi. Mais Marc Marquez, c'est un monument, et cette année il est au guidon de la meilleure moto qui soit. Donc c'est quand même difficile de lutter contre un tel bonhomme accompagné de tous les autres. Et la Yamaha, on sait qu'elle revient de très très loin quand même. L'année dernière, elle était à l'arrêt, la Yamaha. Ils ont beaucoup beaucoup travaillé, ils sont encore en train de bosser pour un nouvel règlement qui aura lieu en 2027, donc ils bossent sur des moteurs différents, donc on sent que ça progresse. On sent que Fabio, s'il était au volant au guidon d'une Ducati, il serait sans doute en mesure de vraiment livrer bataille avec Marquez, mais sa moto, elle est pas encore tout à fait au point. Sur un tour, quand il est vraiment au taquet, il peut y arriver, mais sur un Grand Prix entier, moi j'y crois pas, malheureusement.
Avec 27 tours cet après-midi, c'est vrai que ça risque d'être compliqué. Alors là, je vous dis ce qui se passe, chers auditeurs. Il y a la parade actuellement des pilotes. Donc, tous les pilotes MotoGP de la catégorie reine sont montés à bord d'un véhicule et évidemment sont là pour saluer les milliers, les dizaines de milliers de spectateurs ici venus au Mans pour accueillir les héros et notamment nos deux Français, Johan Zarco, on l'oublie pas, et Fabio Quartararo. Il y a énormément de bruit ici au Mans pour cette parade des pilotes. Sachez que ce sera dans un peu moins de 4 heures, hein, maintenant le début de cette course MotoGP. Je rappelle aussi que Fabio Quartararo, parce que évidemment on a beaucoup parlé dans cette émission de son titre de champion du monde en 2021, en 2022 il fait deuxième, ça se joue à rien. En 2023 ça commence à être la dégringolade avec une 10e place au classement général. En 2024 c'est 13e, donc c'est dire s'il revient de loin, Sarah, tout de même.
Oui, il revient de loin et c'est presque surprenant. Effectivement, ces deux pôles, en tout cas celle de Rérez et celle d'ici. Et c'était aussi la question un peu générique qu'on se posait. Est-ce que pour qu'il y ait un engouement énorme autour de la moto en France, est-ce qu'il nous faut des grands prix? Est-ce qu'il nous faut des constructeurs? Et est-ce qu'il nous faut des champions? Oui, il faut un peu des deux. Et il retrouve des couleurs juste au bon moment. Mais je suis un peu comme Christophe, même si je te dis oui, j'espère qu'il essaye. Mais il faut être raisonnable. Et il le dit lui-même, hein, Fabio Quartararo, raisonnablement, il part en pôle. S'il reste sur le podium, ce sera c'est quasiment une victoire. C'est quasiment une victoire.
Vous m'avez mis la trouille, dit.
Ouais, et quand tu vois les Ducati, c'est même sans connaître spécifiquement la moto, et quand tu lis les comptes rendus sur 27 tours, il y a un moment, il faut être un peu pragmatique. C'est-à-dire, je vois pas comment il peut aller chercher une victoire. Cependant, en moto, il peut y avoir aussi des chutes. Et on a un temps qui va être un peu mitigé. Et avec une piste mouillée, est-ce que Monsieur Poirier, je ne souhaite pas les chutes des autres, mais ça fait partie aussi d'une course, c'est-à-dire que ça dépend de ce qu'on fait, mais il peut y avoir aussi des
faits de course en effet qui viendront perturber le résultat, mais ça fait partie en effet de la course moto. Les conditions météo sont changeantes, en tout cas sont pas certaines, donc ça veut dire que ça peut aussi apporter un petit piment. Ce qui est certain pour répondre à la question, c'est que Fabio est un champion exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a été champion du monde en 2021, il a été vice-champion du monde en 2022, en 2023-2024 il avait une moto qui était dans la difficulté, il était quand même là, et là on le voit encore aujourd'hui, c'est-à-dire que Fabio c'est le premier pilote Yamaha et largement devant ses collègues, et donc c'est un pilote d'exception. Je pense qu'il faut vraiment qu'on le mesure. Il a fait un choix de partir, de s'engager sur du moyen terme sur un projet aussi technique, et je salue également Johan, parce qu'il est dans la même logique, et donc on travaille à préparer des motos. Nos deux pilotes français sont les deux premiers dans leur équipe et auprès des constructeurs japonais, donc on a aussi cette compétence-là, et Fabio, c'est un pilote d'exception, certain.
Ouais, mais c'est ça qui est frustrant, Président. C'est ça qui est frustrant.
On a super moto, oui.
Sans doute un des deux, trois meilleurs pilotes de la planète, et le voir batailler avec cette moto, même si elle progresse, on se dit que toutes les belles années sont en train de s'envoler. Il aurait pu, s'il était au guidon d'une Ducati, peut-être avoir déjà 2, 3, 4 titres de champion du monde, ou en tout cas être à la bagarre avec Marc Marquez. C'est ça qui est souvent un peu frustrant avec les sports mécaniques, c'est que le talent ne suffit pas, il faut aussi être au guidon ou au volant de la bonne voiture et de la bonne moto.
Pour moi, Fabio, c'est du niveau de Marc Marquez.
Ah ouais.
Et Marc Marquez, quand il était chez Honda, il était en difficulté, on le voyait moins. Ceci étant, c'était lui le premier pilote Honda. Et donc, on a en France, en effet, ces pilotes d'exception. Ouais.
En fait, moi, j'aimerais faire simplement preuve de logique et puis aussi d'un brin d'optimisme, messieurs, dames. Donc, si j'ai bien compris, Quartararo a fait la pole, donc le meilleur tour.
Oui, sur un tour.
Et il se trouve que c'est, comme vous l'avez dit, nous le savons tous, un pilote exceptionnel. Et le sport se nourrit d'exploits. Hier soir à l'apéro, Paul...
Ah bah bravo.
Mais j'ai bu tes paroles, pas que tes paroles d'ailleurs, mais j'ai bu tes paroles et je dois reconnaître que tu m'as scotché tant tu connais. Et j'ai écouté ton analyse. Cependant, tu m'as pas convaincu. Parce qu'il y a un Grand Prix.
Donc il n'est pas si fort.
Il y a 27 tours. Et il y a l'incertitude du sport, comme le disait le président tout à l'heure. Donc j'ai envie de croire à la victoire de Quartararo. Et si jamais il pleuvait, eh bien on a Zarco, qui est assez adroit sur ce type de...
C'est l'un des meilleurs pilotes sous la pluie.
Sous la pluie. Donc j'ai envie d'y croire jusqu'à 14h et plus. Et plus les tours vont s'égrener, plus je vais y croire.
Président Sébastien Poirier avec nous dans les grandes gueules du sport, notre invité exceptionnel pour parler de Fabio Quartararo, mais aussi de ce Grand Prix, évidemment. Est-ce que quand on voit, est-ce que ça vous fait beaucoup de bien? Est-ce que pendant deux saisons, on venait évidemment, et vous étiez très heureux d'accueillir 200, 300 000 spectateurs pour ce Grand Prix du Mans? C'est toujours un événement en mai ici, mais est-ce que là, il y a un truc en plus cette année?
Juste peut-être dire, il y a aussi Johan. Faut surtout pas l'oublier, il fait 6 hier, et en effet, sur un Grand Prix, sur 27 tours, il sait gérer ses pneus, etc. Donc, en effet, Johan, à mon avis, on peut aussi le voir sur le podium. Alors oui, évidemment que, aujourd'hui, on a la chance, enfin, surtout pour nos pilotes, de MotoGP, de pouvoir performer devant leur public. Et on a aussi également la chance d'être un sport populaire. C'est-à-dire que, ce Grand Prix de France de vitesse, il rencontre un succès populaire depuis très très longtemps, il grandit d'ailleurs, sans forcément avoir eu des pilotes français qui ont pu briller dans les catégories Moto3, Moto2, Moto GP. MotoGP. Aujourd'hui, on a la chance, en tout cas, cette dernière année, on a la chance d'avoir nos pilotes français qui performent, les motos qui progressent également, et donc les spectateurs voient une pole position arrachée à la dernière seconde. On est vraiment dans quelque chose de fantastique. C'est un très beau narratif, et moi, je suis très content pour nos spectateurs parce qu'ils le méritent tellement. On a la chance en France d'avoir un très, très beau spectacle et des spectateurs qui sont respectueux de tous les pilotes parce qu'ils applaudissent tous les pilotes. Je veux dire, c'est un esprit qui est totalement sain. Et je crois que moi, je suis vraiment heureux pour eux parce qu'ils le méritent tellement. On a la chance en France d'être un sport populaire. Je parle souvent du Touquet, mais c'est 300 000 personnes sur le Touquet. On a les 24 heures du Mans, auto, moto, le Bol d'Or, les Grands Prix de France de motocross. Enfin voilà, donc on a un public merveilleux et aujourd'hui, il est récompensé.
J'ai une question par rapport à ça. Quand on voit le classement du championnat et quand on voit effectivement la ligne de départ de ce Grand Prix où Quartararo est devant, mais derrière, il y a des Espagnols. Il y a une culture espagnole qu'on n'aurait pas en France. Parce que là, vous égrenez effectivement toutes les courses qu'on a. C'est des rendez-vous, c'est des marronniers. Enfin, ça tombe pas. C'est des Grands Prix et des courses qui sont quasiment centenaires. Pourquoi on n'a pas plus de pilotes? On forme pas?
Alors, déjà plusieurs choses.
La question, on commence à remettre en cause votre travail.
Commence à être désagréable, exactement. Tout se passait bien, et là, ça bascule. Juste pour dire que quand je parlais de tous ces grands prix, il y a évidemment la vitesse, mais le cœur de la vie fédérale, c'est le motocross. Oui. Et en motocross, pour le coup, on a énormément de titres et on réussit à engager une vraie filière. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de reconstruire une filière complète à l'image de celle du motocross. J'ai posé le projet Génération Vitesse. Parce qu'en effet, on a la chance d'avoir des ambassadeurs qui vont faire rayonner la moto, mais on a pas de pilote en moto 2 et pas de pilote en moto 3. C'est une vraie inquiétude pour nous. Donc, on a revu complètement notre pyramide de la vitesse. On a revu complètement également les règles techniques parce que ce qu'il faut, c'est se caler sur les évolutions techniques du championnat européen et des championnats du monde junior. Donc, on a revu nos règles au niveau franco-français pour s'adapter à cette évolution, pour faciliter les transferts. On est en train de construire cette génération. Hier, j'ai fait une conférence de presse au Lodge de la Fédération justement pour expliquer et faire un point d'étape. On a un jeune pilote qui est en junior GP, sans être trop long et trop technique, mais qui est vraiment l'antichambre des Grands Prix. On a la chance d'avoir deux pilotes français qui roulaient en Red Bull, Rookies Cup. Donc, cette génération, on la travaille. Et aujourd'hui, je pense qu'on verra les premiers résultats.
Oui. Combien de temps on met
d'ici
entre
2 ans et 3 ans? Pourquoi? Parce qu'entre-temps, on a une modification de la norme, la règle internationale, qui impose à ce que les pilotes aient 18 ans pour accéder en Moto 3, sauf exception. Et donc, ça nous a fait prendre un petit peu de retard, parce qu'on a des pilotes aujourd'hui qui sont en construction, qui ont 16 ans ou 17 ans, donc ça veut dire qu'on les aura dans 2 ou 3 ans. Mais voilà, j'espère ne pas me tromper, j'espère que j'aurai l'occasion d'être invité dans 2 ans et j'espère qu'on aura un ou deux pilotes français en plus de ceux déjà qui performent au niveau des MotoGP.
Et voilà, et pour enfin battre définitivement ces Espagnols, on attend ça avec impatience. Jérôme Pinot sur Fabio Quartararo et avec le président.
Non, mais juste à rajouter que sur la performance et la possibilité de victoire de Quartararo, bien sûr que lui-même le dit, ça va être long. Après, on sait aussi que les deux frères Marquez ne se font aucun cadeau. Il peut se passer des choses sur une piste partiellement humide, il peut y avoir des choses. Et je reviens aussi sur le simple fait de se poser la question. Faut même pas se poser la question si quand un pilote français performe, est-ce que ça attire? Évidemment. Nous, les non-connaisseurs, les non-spécialistes, moi, je me suis pris à regarder le sprint hier parce que Fabio Quartararo revient dans le game. Et donc, tu regardes. C'est évidemment un élan supplémentaire. Il faut un tas de choses pour que ça revienne et qu'on suive encore plus et que les non-spécialistes suivent ça. Mais là, le coup, c'est un pilote français qui performe. On s'identifie, Cocorico, à notre pilote, et on a tous envie, même si vous êtes tous en train de nous expliquer que c'est pas possible, et on se dit qu'on va peut-être faire durer le déjeuner, et qu'on va peut-être prendre l'apéro un peu plus tôt, on va regarder quand même, parce qu'on va avoir l'espoir. Si il est comme l'an dernier, je vous rappelle, président, on s'est vu l'année dernière, rappelez-vous, vous aviez moral dans les chaussettes, quoi. C'était pas le même engouement. Zarco à la ramasse, Quartararo qui était pas là. Là, on a envie d'être là. On est content d'être là, et on a notre français. Bah, qui va nous faire espérer. De toute façon, comme on dit, il faut être pragmatique. Il faut aussi la magie du sport. Il faut surtout vivre dans l'espoir. Et l'espoir, c'est cet après-midi. On va voir ce que ça peut donner.
Exactement. Et puis, l'an passé, on espérait le première place après les Ducati. Cette année, on est en train de parler de podium, voire de victoire.
Donc,
ça change totalement les choses.
Il dit lui-même que dans le sprint, déjà, d'être déçu d'être quatrième, c'est bien. Parce que jusque-là, il n'y avait pas de points.
Et la deuxième chose, évidemment, que comme pour toute fédération, Ce sont les sportifs, les champions qui portent une fédération, qui portent un sport. Et on a la chance d'avoir, d'être dans ce temps-là avec notre champion Fabio et Johan, deux grands champions complémentaires dans leur approche du sport. Donc évidemment, pour nous, fédération, on pourrait être la plus belle fédération avec le plus beau programme si on n'a pas la chance d'avoir des champions. Je parle souvent avec mon ami président de la fédération de ping-pong, enfin de ping. Aujourd'hui, sont portés par les frères Lebrun, et bien évidemment que c'est tout un sport qui va être.
Parlez-en à votre confrère de la Fédération française de cyclisme, il vous dira pareil. Depuis qu'Alaphilippe a les deux pieds sur le même pédale, il y a moins d'engouement pour le cyclisme français.
Alors, il faut quand même tout rappeler qu'il y a des guests. Hein. Il y a notamment Marc Cavendish qui est là aujourd'hui.
Il est là.
C'est incroyable parce que j'imagine qu'il va donner peut-être des conseils aux autres écuries de vélo, peut-être pour installer des moteurs et pour peut-être.
Grand passionné de moteurs.
Il est originaire de l'île de Man.
Forcément, grand passionné de GP.
C'est quand même un endroit particulier, quand même, hein, président.
Claire, très sympa d'ailleurs. On sent que vraiment c'est un passionné qui connaît vraiment très bien le monde du MotoGP. Alors, l'île de Man est évidemment une épreuve très particulière qui n'est pas reconnue par la FIM.
Non, c'est extrêmement dangereuse. Oui,
mais c'est spectaculaire.
Les gens de l'île de Man, par définition, sont des gens très particuliers.
Merci beaucoup, président Sébastien
Merci
Poirier,
à vous, en tout cas.
Président de la Fédération française de motocyclisme, d'avoir été notre invité. On se revoit l'année prochaine, dans un an.
Avec plaisir.
Pour
avec
la deuxième
plaisir.
Victoire de suite de Fabio Quartararo.
Allez, ici au Mans. Écoutez, c'est tout ce qu'on peut souhaiter.
Évidemment. Et merci une nouvelle fois d'avoir été avec nous dans les grandes gueules du sport. 10h27, on se retrouve dans quelques instants avec un autre invité. C'est Claude Michi, l'organisateur du Grand Prix de France, ici au Mans, qui a re-signé d'ailleurs. Hein. Il continue d'être l'organisateur et de nous accueillir ici pour les grandes gueules du sport pour cette course fantastique cet après-midi avec Fabio Quartararo qui partira en pôle. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport en direct du Mans.
Jean-Christophe Drouet.
Et c'est l'événement cet après-midi en direct du Mans avec ce Grand Prix de France. Ce magnifique événement et Fabio Quartararo qui partira en pole position. Ce sera à 14h, ce sera évidemment à suivre en direct sur RMC avec Paul Lafitte, notre commentateur. Les grandes gueules du sport ce matin. On continue de parler de ce Grand Prix de France, de ce Grand Prix du Mans avec Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Jérôme Pineau, Sarah Pitkowski. Sachez qu'à partir de 11h, on parlera de Kylian Mbappé qui va peut-être jouer sa saison. Aujourd'hui, c'est à 16h15, le Classico Barça-Real. Ça s'est mal passé pour les Madrilènes avec les Barcelonais cette saison. Nouvelle manche, quatrième match de la saison. Mbappé joue-t-il sa saison, lui qui n'a toujours pas gagné de titre avec le Real Madrid. Et puis on parlera du top 14 avec cette victoire flamboyante du Stade Toulousain. Ça, ce sera à 11h30, mais nous accueillons un nouvel invité. Claude Michi, le patron de ce Grand Prix du Mans, est avec nous. Bonjour Claude.
Bonjour.
Je vais vous mettre le micro.
Ah ouais, voilà, c'est mieux. Parfait. Bonjour, je ne sais pas qu'il fallait appuyer, moi je débute.
Hein. Oui, oui. Rassurez-vous, tout le monde débute autour de cette table. On est ravis d'être avec vous. Merci de nous accueillir ici une nouvelle fois cette année, les grandes gueules du sport RMC pour ce Grand Prix fantastique. Déjà, ça vous fait quoi de savoir, on en parlait il y a quelques instants avec le président de la Fédération, ça vous fait quoi d'avoir un Français en pole position dans votre Grand Prix?
Bah, c'est un plus bien sympa, hein. Donc ça fait partie, il a déjà fait quelque chose de très bien à Jerez, Fabio. Et puis je pense pour les fans, on est là pour donner du plaisir. Mais moi je peux faire que ce que je peux. Après c'est les autres qui sont sur la mobilette et qui donnent du plaisir aux fans. Donc c'est ça qui est important. Et puis il y a une ferveur, il y a c'est très populaire, c'est une vraie clientèle sympathique.
Et c'est un vrai plus pour vous d'avoir un Français en termes de billetterie, en termes d'influence. Est-ce que quand Quartararo performe, quand Zarco performe, il y a plus de spectateurs qui viennent au Mans, ou alors il n'y a pas de corrélation?
Vous voyez Claude, ça fait une minute que vous êtes là, on vous parle déjà d'argent.
Non, c'est normal, je suis auvergnat, donc c'est pas gênant, on est éduqué pour ça. Hein. On ne voudrait pas que nos grands-parents se retournent dans leur tombe parce qu'on ne se tient pas bien.
On connaît bien Philippe Saint-André. Donc
exactement, le Goré. En réalité, nous on met en vente très très tôt, on met en vente fin septembre, tout début octobre. Et cette année, on a vendu toutes nos tribunes numérotées, en montant en gros 30 places de tribunes numérotées, et tous nos VIP individuels en 2 heures. Donc, et les résultats des Français n'étaient pas très bons l'année dernière. Ouais. Donc, je pense que le Grand Prix de France est devenu plus qu'une course. On a beaucoup d'animation, les gens viennent depuis de nombreuses années, on fait la gratuité jusqu'à 16 ans depuis les débuts, depuis 30 ans. Et donc, ces gens-là ont grandi. Et ils ont découvert et ils en parlent à leurs copains et tout. Donc, on est devenu, je pense, un peu comme, j'allais dire, je vais faire auvergnat, comme une religion, l'ASM à Clermont, quoi.
comment,
Je rappelle que vous avez été évidemment le président du club de foot.
Pas de l'ASM.
Non, du club de foot de Clermont. Je pense que Pascal aura une question peut-être en ce sens.
Je dirais pas président, je dirais propriétaire, ce qui est un autre jeu.
Comment vous êtes tombé dans la moto?
Comment je suis tombé dans la moto?
Vous occupez de ce Grand Prix depuis 30 ans.
Oui, parce que ça fait des années. Vous venez aussi du foot. Vous venez de dire que vous êtes auvergnat. Comment vous êtes arrivé ici?
J'ai un club de volley féminin, Chamalières aussi. Non. Oui, je m'occupe des femmes quand même, c'est important. Non, mais j'ai eu la chance. Vous savez, la vie, c'est fait de rencontres. Il y a un moment où rencontrer les gens, et puis il se passe des choses. Donc, il y a de très longues années, j'avais rencontré Carmelo Spelletta, Kelsey Oudorma, quand on est travaillé pour le Dakar, sur un prologue à Barcelone. Et puis après, ils ont eu les droits que Bernie Eccleston avait acheté au début, c'est Bernie Eccleston qui a acheté au début la moto. Et puis, le hasard fait qu'il y avait différents candidats. Moi, j'avais pas de circuit, pas d'argent. Ils sont partis avec moi, donc je les remercie.
Ça fait 30 ans que vous organisez ce Grand Prix. Je rappelle que vous avez même prolongé il y a quelques jours le contrat jusqu'en 2031.
Oui, et donc j'ai déjà signé avec une EHPAD pour qu'il me laisse sortir suffisamment tôt.
Jérôme Pinault avait une question pour Michy, notre invité.
On parlait de l'événement tout à l'heure, et c'est vrai qu'on le voit, quand on le constate quand on est ici. Pour être pas un ultra spécialiste de la moto, on sait que le Grand Prix de France, c'est rendez-vous. Moi, je compare toujours à mon sport. Le Tour de France, on vient, que y ait des Français ou pas, c'est quelque chose de populaire. Comment on arrive encore à upgrader l'événement, parce qu'il est déjà installé, sans ou avec les pilotes français? Moi, ce que j'admire beaucoup, et c'est quelque part une constatation et une question, c'est l'appartenance des pilotes dans l'événement. C'est-à-dire qu'ils jouent le jeu, ils sont là, et contrairement à beaucoup de sports, il y a la parade ce matin, on voit que les pilotes sont totalement investis auprès des fans. Est-ce que ça se perpétue malgré les années qui passent et l'argent de plus en plus présent dans le sport?
Non, je pense que c'est une communauté, une vraie communauté. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, c'est les pilotes. L'organisateur doit être comme les pilotes. Nous, on doit être performants. Ils sont au taquet. Et ben, nous, on doit être au taquet avec nos équipes. Et heureusement qu'on a des super staffs. Parce que si on n'a pas de bon staff, moi, je suis que la partie un peu immergée. Mais c'est même gênant parce que tous les gens qui travaillent derrière. Moi, en plus, j'ai mes enfants qui sont avec moi. Donc, c'est génial. Mais ils sont accessibles. Mais vous comprenez, ils sont normaux. Des fois, c'est pas le bon mot pour. Hein, il y en a qui ont dit qu'ils étaient normaux, mais c'était pas normaux. Mais ils sont accessibles. Ils vivent la vie. Je vais vous donner un exemple. Vous allez comprendre tout de suite. Joan Zarco appelle ma fille parce qu'il lui fallait un pass qui marchait pas. Il appelle ma fille. Il dit bon, bah écoute, je vais le récupérer. Il y a pas de souci. Il dit en plus, j'ai une petite galère d'avion. Ils se sont trompés au team, donc j'étais obligé de venir autrement. Mais j'arrive en train ce soir à 8h30. Elle lui dit, mais on va venir te chercher. Il dit non, il y a le tram, c'est top. Donc il est monté dans le tram et il est à l'hôtel. Donc si vous voulez,
pour les gens qui étaient dans le drame avec lui, quand même, ils ont dû être surpris quand même.
Bah oui, mais c'est bien cette notion là. Alors c'est tous des grands champions, c'est le dernier gladiateur du monde moderne, hein, donc
Et c'est ce qui caractérise le Grand Prix, les pilotes GP, les pilotes moto. La Formule 1, on voit pas ça. Il y a certains sports qui devraient s'en inspirer, on le voit pas non plus. On le voit là, la parade, ils passent derrière dans les stands, ils sont près des on voyait tout à l'heure Quartararo lancer avec fusil à pompe, des goodies dans les tribunes. Dans quel sport voit-on ça? Dans 4 heures, ils roulent à 300 et ils se collent les uns aux autres et ils vont s'envoyer au tapis. C'est ça qui me fait
rire Pascal Duprat. Moi, j'avoue que quand j'ai eu le club de foot, ce qui m'énervait profondément, c'est que malheureusement, c'est des bons comédiens, ils se font rayer la chaussette et hop, pendant 3 minutes. Bon, là, les gars, ils se font dégommer à 300 à l'heure, ils courent après la moto pour voir s'ils peuvent repartir. Et donc, j'avais fait faire un montage d'images, c'était à l'époque Michel Derzakarian. Je dis, moi, j'allais très rarement au club, je dis, j'y connais rien, je dis, on va faire quelques images et je voudrais quand même que le cerveau puisse changer. Parce que je trouvais ça très désagréable.
Ouais. Ils simulaient plus après, les footballeurs?
Certains.
Si, quand même.
C'est dans l'éducation, on ne peut pas le refaire tout de suite.
Le monde du foot se rencontre avec Claude Michy, l'organisateur, le patron de ce Grand Prix du Mans, ancien président du club de Clermont, Clermont Foot, propriétaire.
Oui, en fait, je voulais
Pascal Duprat.
Ce matin vous poser une question. Est-ce que vous êtes complètement soulagé ou à demi soulagé? Parce que je suis sûr que vous suivez les résultats de Clermont Foot. Hier, ils sont échappés sur la dernière journée à la relégation.
Oui, c'est pas fini parce que barrage, c'est pas simple. Mais oui, je suis toujours. Je crois que même je suis peut-être plus que quand j'y étais.
Ah oui.
Non, non, parce que Ahmed Schaeffer et ses équipes ont fait un super boulot. Ils sont montés en Ligue 1, ils ont fait rêver tout le monde. Et après, c'est le foot, c'est un sport aléatoire, donc tout est possible.
Et une deuxième question. Vous parliez tout à l'heure de la sympathie du public ici au circuit. Si on compare au public du foot, c'est plus sympa, vraiment, réellement, le public de la moto.
C'est la première fois que Pascal Dupraz vient ici. Hein.
Non, mais c'est pas le sujet. Je pense que le sujet, c'est que la société est malade. Donc, il y a des
meurtres. Mais pas celle-ci.
Moins, de moins, pas plus, pas moins. Ça se voit peut-être moins parce que le foot étant un vrai réceptacle et donc les gens s'en servent pour d'autres raisons qui sont pas les bonnes. Mais je pense que globalement, vous savez, 98% des gens se comportent bien. C'est les minorités qui mettent la merde, hein, en parlant poliment. Et malheureusement, la majorité, elle est toujours silencieuse. Donc, ça marche jamais.
Et c'est un événement extraordinaire, populaire. On l'a dit, près de 300 000 spectateurs qui viennent durant ces trois jours de compétition. Il y a Sébastien qui nous appelle au 32-16, qui veut réagir à cette émission. C'est un fan de moto. Bizarrement, il est même pas là au Mans aujourd'hui. Pourquoi ? Bonjour Sébastien.
Il est même pas au Mans. Je suis sur place. Et je tenais à féliciter déjà un grand bonjour à Monsieur Michy. J'ai jamais loupé une année depuis 2003. Ce qui m'a interrompu le Mans, c'est le Covid. Et j'ai vu l'évolution. J'ai fêté les 25 ans. J'ai la médaille des 25 ans, Monsieur Michy, c'est de quoi je parle, dans les loges, avec la médaille des 30 ans. Et je tiens vraiment à le féliciter, parce que pour les amoureux de moto, et quand vous parliez débordement, je saute un peu du coq à l'âne. Depuis 2003, je n'ai jamais... Alors, il y en a peut-être, hein, parce que je suis pas partout sur le circuit. Je n'ai jamais vu un débordement. Il n'y a jamais eu un mot... une bousculade, un mot plus haut que l'autre. Et quand on voit l'influence qu'augmente, comme il l'a précisé tout à l'heure, en 2 heures, la vente, la billetterie, il a fallu se connecter à 5 ordinateurs pour arriver à choper des places en tribune. Enfin, c'est juste magnifique. Et c'est un pèlerinage. C'est même plus qu'un pèlerinage.
On arrive ici, près du Mans, que c'est un véritable pèlerinage pour tous les amoureux de moto, pour les motards, pour tous les aficionados.
Est-ce qu'on est obligé d'avoir une moto pour venir au Grand Prix de France Moto ? Est-ce qu'il n'y a que des motards qui assistent au Grand Prix ? Ou alors
Le premier non-motard, c'est moi, alors. Donc... bon, déjà, à part un scooter en ville, le reste, j'ai pas de permis, j'ai rien. Je suis organisateur, non, on peut pas. Non, il y a beaucoup de gens en moto, bien sûr, hein, mais il y a beaucoup de voitures aussi. Et heureusement qu'il y a beaucoup de gens en moto, parce qu'on ne saurait pas où les mettre.
Oui, et on aurait du mal à circuler pour arriver ici.
On a un parking gardé contrôlé sur le parc des expositions, c'est entre 13 et 14 000 motos.
C'est combien de bénévoles sur l'ensemble ?
Alors, aujourd'hui, là, il y a 3 000 personnes qui travaillent, entre les bénévoles qui sont les commissaires, toutes les différentes sociétés de sécurité, de nettoyage, tout ce qu'il y a dans tout événement. Donc, c'est un vrai pulse, il faut que ça marche, quoi.
Merci beaucoup Claude Michy d'être passé nous voir, parce que à chaque fois je vous dis que notre invité c'est Claude Michy, sauf que c'est nous vos invités aujourd'hui ici au Mans comme tous les années avec RMC. Bon Grand Prix cet après-midi, c'est donc à partir de 14h avec la pole de Fabio Quartararo. On remercie Sébastien d'avoir composé le 32-16. Sébastien, merci. Qui est ici au Mans, qui écoute en même temps les grandes gueules du sport. J'imagine que tous les amoureux de moto nous écoutent ce matin, en tout cas on l'espère, ça nous fera des bons chiffres aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité les motards. En direct du Mans, on continue d'en parler dans quelques instants avec un autre invité. Vous savez quoi ? C'est un champion français. Je ne savais pas qu'il aimait la moto. Il va nous en parler. Il va se confier, je l'espère. C'est Renaud Lavillenie, notre champion olympique. Il est avec nous ce matin en direct du Mans pour les grandes gueules du sport. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport en direct du Mans.
Jean-Christophe Drouet.
10h45, toujours en direct du Mans, les grandes gueules du sport avec ce matin Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault, Christophe Cessieux. Restez bien avec nous à partir de 11h. On vous parle de Kylian Mbappé qui va jouer un match très important. C'est le Classico cet après-midi. C'est à suivre en direct en intégralité sur RMC. Ce sera à 16h15. Est-ce que Kylian Mbappé joue sa saison sur ce match ? Aujourd'hui, je vous poserai la question. Pascal Dupraz me regarde déjà avec des grands yeux. Je sais de quel côté tu vas être. Mon cher Pascal, tu es totalement consterné par nos questions ce matin. Tu as bien raison, même si tu as aussi fait beaucoup de théâtre. On parlera aussi du top 14 avec le Stade Toulousain qui s'est repris après cette défaite la semaine dernière en demi-finale de la Champions Cup face à l'UBB. Est-ce que vous croyez de nouveau au Stade Toulousain ? On se posera la question. Ça, ce sera à partir de 11h30. Mais tout de suite, un nouvel invité, un champion avec nous.
C'est le moment de vérité. qualité pour le français. Il faut la passer cette barre. Renaud, ça fait des années que tu bosses pour ça. Vas-y Renaud, élève-toi, passe-la cette barre.
Un concours de circonstances qu'on n'a pas forcément envie d'avoir, mais qu'on le réussit, bah, c'est juste magique quoi.
Passé à 6m02 et l'Allemand n'aura qu'une seule tentative pour passer. Ça ne passe pas. Renaud Lavillény est champion olympique. Renaud Lavillény est champion olympique. Médaille d'or pour la France. Médaille d'or pour Renaud Lavillény. Il l'a fait le français. Il l'a fait le Clermontois. 5m97. À la rage, à l'envie, à la passion. La France a une médaille d'or en athlétisme.
On a failli repasser toute la compétition de Renaud Lavillény, champion olympique en 2012, évidemment. Renaud est avec nous ce matin. Bonjour Renaud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. On va pas forcément beaucoup parler de perche aujourd'hui. On va parler de moto, mais on est ravis de t'accueillir. Juste là, de réécouter ça. C'était il y a 13 ans. Ça nous rajeunit pas. Christophe Sessieux animait déjà cette émission.
Je me rappelle surtout de son record du monde parce que figure-toi qu'RMC était le seul média à s'être déplacé en Ukraine cette année-là.
Ouais. Et d'habitude, souvent, on me remet justement les commentaires du record du monde et j'ai moins eu le titre olympique.
On a voulu changer parce que c'est toujours la même chose. Et là, on s'est
Nicolas Jamin qui commentait le truc. Là, ça te file les poils.
Ça fout toujours les poils.
Tu veux raconter, la coulisse. Nicolas Jamin avait insisté en disant il faut y aller parce que je sens que ça va tomber. Il faut vraiment qu'on y aille. Et la direction à l'époque n'était pas très sûre. Il s'est dit bon, ok, on tente le coup et tout ça. Et évidemment, quand tu vois après le coup.
Ça va, ça a bien marché.
Ouais. Bon, tu étais très heureux d'être là.
On était à l'époque, c'était pendant les Jeux de.
C'était pendant les Jeux de Sochi. Ouais. Et en plus, c'est tombé le jour où il y avait toute une période avec du brouillard, etc. Où il n'y avait pas de compétition ce jour-là, tout avait été annulé. Et l'anecdote, c'est que les gens avaient cru que j'avais battu le record du monde aux Jeux Olympiques. Alors que non, pas du tout. La perche en extérieur, pas aux Jeux d'hiver, mais ouais, non, ça avait vraiment cartonné. Ouais.
Renaud Lavillény, invité exceptionnel des Grandes Gueules du Sport ce matin. Passionné de moto depuis quand, Renaud?
Ouais, je sais pas, depuis 30 ans. Un truc comme ça. Enfin, je suis fond moto depuis tout gamin. Et là, ça fait quand même plus de 15 ans où je suis. Au-delà d'être passionné, je suis pratiquant et puis bah du coup j'en profite au maximum, notamment sur un week-end comme ici au Mans quoi.
Est-ce que tu as eu le droit d'en faire durant tes plus belles années de saut à la perche ou non? Tu avais des assurances ou tes coachs te disaient non, la moto c'est...
Non, j'ai eu le droit de faire de vivre ma vie à la fois de sportif mais aussi d'homme et j'ai réussi à faire il y a 12 ans les 24 heures du Mans ici sur circuit.
Entre ta médaille d'or olympique et ton record du monde d'ailleurs, c'est ça?
Exactement, ouais, je l'ai fait 6 mois avant le record du monde. C'était en septembre 2013 et donc j'ai fait les 24 heures, je les ai bouclées, on a fini 25e. Donc voilà, c'était une bonne performance déjà sportive pour un non-pilote. Et donc voilà, et après nous, j'ai toujours continué de faire un petit peu de piste. Et puis bah après j'attends le moment où je vais arrêter la perche entre guillemets pour de bon, je sais pas encore quand, mais pour refaire encore un peu de moto quoi.
Mais
il y a des chances. Ouais. Bah, les 24 heures, c'est vraiment une compétition qui m'a plu parce que on est un peu moins sur la performance de pointe et on est plus sur la régularité, sur beaucoup de roulage, etc. Et avec une vraie famille qui se constitue au sein de l'équipe. Et donc je me suis toujours dit que je les referais un jour. Donc après, c'est pas encore acté, il y a rien de fait, etc. Mais bon, généralement, quand j'ai ce genre de défi au fond de moi, je sais que j'y arriverai, donc je verrai. Mais pour ça, voilà, je me redonne le temps de je me suis bien relancé cet hiver à la perche, donc je vais jusqu'au bout de mon projet perchiste. Et puis l'avantage, c'est que la moto, on peut en faire à 40, 45 ans, 50 ans sans problème, tout du moins dans ce genre de compétition. Donc voilà, je me laisse l'opportunité de prendre un peu de plaisir plus tard quoi.
On parlera évidemment de ta saison, hein, toi qui as sauté 5m91 à 38 ans, on rappelle et on ramène toujours à ton âge. Tu pourras nous en dire un mot, je sais que ça peut t'agacer parfois, en tout cas c'était le 28 février dernier. Une question peut-être pour
Oui, moi juste une, Pascal Dupin. T'es venu en moto?
là?
Non, parce que je suis venu avec ma femme et non, franchement, on est venu en voiture, je suis venu il y a quelques années en moto. Et c'est vrai que c'est quand tu vois toutes les motos sur la route et dans les parkings aux alentours,
c'est sympa.
C'est une belle fête populaire et t'as envie d'être dans la masse, quoi.
Est-ce que tes potes avec les concurrents, les pilotes français là, Johan Zarco, Fabio Quartararo, est-ce que tu vas les voir? Est-ce que justement, de fait de ta notoriété, tu as accès à tout ça?
Ouais, bien sûr. Bah, j'ai eu l'occasion de passer un peu de temps avec eux. Johan, je le connais depuis. On s'est rencontré la première fois, c'était en 2012. Il était encore en moto 2. Pareil, Fabio, je l'ai rencontré. Il était en moto 3, un tout petit gamin et tout. Donc, on se voit à minima chaque année. On se voit ici. Puis après, avec les réseaux, on communique. On est souvent en contact. Donc, c'est sympa. Et puis c'est sympa en plus là de voir les performances quand on voit la pole d'hier de Fabio.
Soutenir qui là, clairement? Parce que est-ce que t'es pour les Ducati, les Marquez?
Il est ambassadeur de Ducati.
Déjà, tu vas regarder la course de quelle loge?
Je sais pas encore où je vais la regarder. J'ai plusieurs options, donc je vais voir un peu au feeling comment ça va se passer. Hier, j'ai fait la sprint en voie de sécurité, en bord de piste. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez agréable. On voit pas toute la course, mais voilà, il y a forcément un moment dans le circuit qui est sympa. Et là, tout à l'heure, pour supporter, franchement, je supporte tout le monde. Je veux voir une belle compétition.
Un peu français quand même.
Non, mais bien sûr. Bah après, faut être conscient que là, pour les Français, Fabio, il est en difficulté quand même. Donc, il est obligé d'être à 100%. Et après, il faut voir aussi la piste, comment ça va évoluer. On sait que dans des pistes un peu particulières, Johan peut être très bon. Mais bon, après, en face, Marc et compagnie, c'est quand même solide. On espère en tout cas avoir une belle perf, mais un Français sur le podium, c'est pas utopique et on peut y croire jusqu'au bout, quoi.
Je voudrais quand même parler de ta saison, parce que tu reviens d'un stage aux États-Unis où justement tu as envie de faire de belles perfs cet été. Dans quel état tu te sens pour reprendre cette saison, sachant que je le disais il y a quelques instants, en février, on a tous parlé de toi avec notamment ces 5m91.
Ouais, là je suis vraiment dans la continuité de ce que j'ai fait cet hiver. J'ai passé 2 semaines en Floride, j'ai vraiment bien travaillé, j'ai fait clairement un stage d'un niveau de performance que j'avais pas fait depuis 3-4 ans facile. Donc ça fait du bien à la tête et l'objectif, j'ai les premières compétitions dans 2 semaines en Pologne où j'espère clairement faire les minima directs, c'est 5m82 pour les championnats du monde cet été. Et puis voilà, l'objectif réel, c'est de se qualifier pour les championnats du monde et puis ensuite on verra comment ça se passera, mais j'ai un beau programme et là vraiment ça se passe mieux que ce que j'aurais pu espérer il y a quelques mois. Donc là, le plus important, c'est de rester entier physiquement, et après le reste je sais faire, quoi.
Les championnats du monde, c'est en septembre.
Quand on a tout gagné comme toi, Renaud, qu'on a été sur le sommet, recordman du monde, champion olympique, qu'est-ce qui te pousse encore à faire de la compète, à la perche, à 38 balais, voilà, qu'est-ce qui t'anime encore pour continuer? Où tu la trouves, la motivation?
Le plaisir.
C'est le plaisir. Aujourd'hui, c'est le plaisir.
Ouais, clairement, cette motivation, c'est ce qui a fait que je fais ce sport depuis plus de 30 ans et qui m'a permis d'atteindre le plus haut niveau, parce que je me suis jamais mis dans une position où je voulais faire du sport pour être le meilleur. Je voulais faire du saut à la perche parce que j'adorais ça et que voilà, c'est vraiment ce qui est au fond de moi, quoi. Et ce qui fait que maintenant, je sais que j'ai la chance de pouvoir encore vivre des événements assez incroyables, d'arriver à être encore un peu compétitif. Je peux plus matcher pour les podiums mondiaux, mais voilà, déjà je matche pour les podiums nationaux, ce qui est quand même pas mauvais sur une discipline en France qui est quand même concurrente. Puis voilà de faire pour moi d'aller
à l'entraînement, Renaud, à l'entraînement en ce moment, tu franchis quelle barre facile, à l'aise?
Après là, en ce moment là, j'ai sauté sur élan réduit, donc avec moins de foulée. Pour donner un ordre d'idée, la semaine dernière, j'ai passé 5m70 sur 12 foulées, donc avec 8 foulées de moins que mon élan complet. Donc c'est très très bon. C'est sur des bases de refaire 5m90 cet été normalement, quoi.
Et pourquoi pas 6m28?
Non. Alors 6 mètres à la limite, j'aurais pu dire bon le 28, on va l'oublier, okay. Là.
6 mètres, on retient 6 mètres.
Non, bah, fait 5,91.
Oui, voilà, à 90, la barre d'après, c'est les 6 mètres. Donc déjà, il faut refaire par étapes. La prochaine barre vraiment importante pour moi, c'est 82. Après 90, je pense que, voilà, au vu de ce que j'ai fait cet hiver, c'est encore envisageable cet été. Et puis, après, au-delà de la performance de pointe, pour moi, ce qui va être plus important, c'est la régularité pour me permettre, en fait, de vraiment viser un top 8 au championnat du monde. Et pour ça, il faut faire 5,80 tous les week-ends quasiment. C'est ce que j'ai fait pendant des années et c'est ce que c'est ce à quoi je m'entraîne en ce moment pour retrouver ça, quoi.
Merci beaucoup Renaud Lavillani d'être passé nous voir ici.
Avec plaisir.
En direct du Mans, on te souhaite évidemment un magnifique Grand Prix, on te souhaite beaucoup de bonheur avec Ducati, donc puis tu nous laisses quand même quelques miettes avec nos Français, notamment Fabio Quartararo.
Il y en a pour tout le monde.
Merci et évidemment on était très heureux de partager beaucoup de moments avec toi durant les Jeux Olympiques. C'est ta maison ici, RMC, tu reviens quand tu veux. Merci Renaud Lavillani.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Merci d'avoir été ce matin dans les grandes gueules du sport, notre grand champion français, champion olympique, notamment des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Il est 10h57, on va se retrouver dans quelques instants, on va vous parler de Kylian Mbappé, du top 14, bref, encore un programme riche dans les grandes gueules du sport. À tout de suite.
RMC, les grandes gueules du sport en direct du Mans.